Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 26 novembre 2022. Vous écoutez LCDE saison 4 épisode 132. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de faire votre sapin de Noël, en train d'ouvrir vos paquets du Black Friday ou en train de regarder la Coupe du Monde.
Notre promesse, eh bien, elle est toujours la même depuis 4 ans. Décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Voilà Laetitia et Adrien.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Et au sommaire de cette émission, des news de fin d'année, des acteurs qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, certains qui se réinventent. C'est la magie de la tech et du e-commerce. Cette semaine, on passe le mic à Émeric d'Agora Pulse. Maturité des marques sur le social media, comment mesurer l'impact sur le business et pas que sur le marketing? Retrouvez l'interview de l'année dans cet épisode.
Et comme à chaque fin d'émission, on terminera avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia,
Adrien,
prêt?
Synchronisation des montres.
Charrette busy, pas le temps, le nez dans le guidon, la tête sous l'eau. Vous n'avez pas eu le temps de faire votre veille e-commerce. La rubrique des news simples et funky est là pour vous sauver. On a listé tout ce qui s'est passé cette semaine, de l'actualité chaude, intéressante à ne pas louper, mais aussi fun et parfois what the fuck. Vous trouverez le détail de ces informations dans la description de l'épisode.
Everly, c'est fini. La société italienne de livraison à domicile cessera ses activités en France dès le 1er décembre. Pour rappel, Everly opérait en France depuis février 2021.
La Poste annonce un investissement de 200 millions d'euros destiné à renforcer son maillage logistique urbain, mais aussi la création d'un fonds d'investissement de 500 millions d'euros en faveur de la logistique urbaine.
Les copains de Potion, la startup spécialisée dans la personnalisation cookie-less, vient de lancer sa solution d'e-merchandising.
Les levées de fonds et les rachats de la semaine, c'est la rubrique bling bling. Laetitia, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé cette semaine?
Ah, pas trop, hein. c'est un peu de tendax, hein. Mais bon, il y en a quand même eu. LiveMeds, startup niçoise spécialisée dans la livraison de médicaments aux pharmaciens, vient de lever 5 millions d'euros.
Oui, Dressfair, c'est une marketplace de mode éco-responsable qui lève 2 millions d'euros. Tu les connaissais? T'as déjà utilisé?
Non, pas du tout.
Ok.
Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une marketplace de mode éco-responsable, mais c'est pas de la seconde main, c'est ça?
Donc
hein?
ils sélectionnent des produits, exactement, des produits et des marques qui répondent à leurs critères. Et puis et voilà. Et donc c'est une marketplace. Je suis allé regarder ce qu'ils proposent. C'est de la seconde main dans le sens où il y a beaucoup de produits qui sont recyclés. Je sais pas si tous les produits sont recyclés ou upcyclés, mais en tout cas ils
fonctionnent
dessus et ça a l'air. Ouais, exactement. C'est français et ça marche plutôt bien, donc félicitations à eux.
Bravo. Digital Virgo entre en bourse aux US. Digital Virgo, eh bien, c'est le spécialiste du paiement mobile et du marketing digital. Concrètement, l'entreprise française s'est positionnée comme un tiers de confiance entre les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs de contenu payant.
OVH Cloud obtient un financement de 200 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement.
La news what the fuck de la semaine.
Laetitia, je crois qu'on a créé cette rubrique exactement pour ce genre de news. Donc quand j'ai lu ça, je savais où elle allait atterrir cette news. Écoute, la news c'est la suivante. Il y a des aux États-Unis, il y a des de la mafia ou des dealers de drogue qui se servent d'Amazon pour livrer leurs clients.
Donc je t'explique
ce qu'ils font.
Maintenant on va sur Amazon.
Non mais en fait ça va même beaucoup plus loin. Donc ce qu'ils font, c'est, écoute-moi bien parce que moi j'adore la créativité quand des dealers. Alors là qu'est-ce qu'ils font? En fait ils ont mis en vente des objets de décoration, de jardin, des produits spécifiques. À l'intérieur ils mettaient de la drogue. Ils envoyaient tout ça à Amazon dans les entrepôts Amazon et du coup ils pouvaient livrer n'importe où aux États-Unis au niveau mondial auprès de leurs clients. Donc c'était un réseau mondial. Le FBI ou je sais pas quelle instance est tombé dessus, a découvert ça. Ils ont commencé à mettre des ils en ont arrêté pas mal, mais je trouve ça extraordinaire.
Quel
d'avoir
type de
utilisé
drogue
le réseau.
Tu sais pas?
Ouais non, c'était héroïne etc. Tous ces trucs. C'était des trucs hardcore.
Et comment les gens étaient au courant qu'il fallait commander ce produit?
À mon avis, quand tu fais un produit de jardin très spécifique et que tu mets un certain prix élevé, les gens vont dire vas-y, je vais jamais acheter ça. Bon voilà. Enfin, moi, je suis pas trop inquiet.
Est-ce que c'était des articles sponsorisés ou pas? Est-ce qu'ils allaient au bout de la logique?
Non mais je pense qu'ils faisaient ça sous le radar et justement il fallait pas trop qu'il y ait de notes. J'en sais rien en fait, j'ai pas les détails, mais je trouvais ça extraordinaire d'avoir ce genre de...
Ouais, c'est une vraie news what the fuck comme on aime. D'accord.
C'est complètement illégal mais c'est complètement très très drôle.
Rien, toujours dans la même veine, la news dont on s'emballait de la semaine.
Bah écoute, c'est une news inutile. Et en fait, bon, c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est La Poste qui va lancer ses timbres NFT. J'en ai dit beaucoup de bien de La Poste.
J'ai l'impression que tu as
déjà
cité cette news. Je ne sais pas pourquoi ça me paraît pas si nouveau que ça. Mais
ouais, bah en tout cas, bah, ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Il y a quelques jours, ils vont lancer ça en février prochain. Et alors, je te lis ce qu'ils expliquent. L'idée est d'associer un timbre physique à son double enregistré dans une blockchain pour son authentification NFT et ainsi rendre chaque timbre unique. Bon, ça a surtout une valeur. Bah, du coup, NFT, c'est surtout ça s'adresse aux philatélistes.
Bah oui, ce que j'allais dire, collectionneurs.
J'ai trouvé ça complètement inutile, mais bon, peut-être que certains vont apprécier. Est-ce que tu sais, je vais te poser une colle, comme à l'autre politicard il y a 20 ans, plus de 20 ans, est-ce que tu sais le prix, pas de la baguette ou du pain au chocolat, mais d'un timbre?
Ah, d'un timbre, pas du tout. Je dirais, j'en vois jamais rien.
Ouais. Mais à peu près,
je
tu dirais
pas,
quoi.
Entre 80 centimes et 95 centimes.
Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Bon, c'est un peu plus cher, c'est 1,14€, de 1,15 à 1,40, tu vois.
Ah ouais,
c'est un peu plus cher.
Un
mais
timbre
ce timbre
vert,
NFT,
c'est ça.
Voilà, bah alors si on veut, timbre vert, c'est 1,16, timbre rouge, c'est 1,43. Bon, voilà, on est dans cette estimation. Et le NFT, le timbre NFT, il sera vendu à combien? Si tu serais prêt à acheter combien un timbre NFT?
Je sais pas, peut-être à partir de 20€, non?
Et ben voilà, tu vois, tous les NFT, on le trouve des prix n'importe quoi. Donc, j'étais pareil, je m'attendais à un truc 50 balles ou 100 balles. Il sera vendu 8€. Donc, en
d'accord.
Fait, voilà, c'est pas trop cher pour de la collection, pour les gens qui sont fans de timbres.
Moi, je pense que ça va fonctionner.
Poste,
hein.
Pour...
Il y a beaucoup de collectionneurs.
Je crois que c'est 100 000,
hein.
Ils vont commencer avec 100 000. Ouais, il y a beaucoup de collectionneurs. Mais bon, je trouve ça, bon, je l'ai mis dans la
section. Mais tu sais, dès que t'as des nouveaux timbres avec la nouvelle Marianne, ou que t'as des timbres édition particulière, Coupe du Monde, Tintin ou que sais-je, mais ça part hyper vite, hein. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a
pour les timbres, oui, mais est-ce que NFT timbre, je sais pas trop si c'est la même. Si t'es en train de transformer la news inutile en news indispensable ou la news de l'année. Non, Etienne, tu vas pas réussir à hacker. Donc, non, je continue à penser que c'est complètement inutile. On va voir, oui, peut-être pour une micro-niche. Bon, ça montre que
ah,
la poste continue.
Le mec
qui
est philatéliste et il se dit, oh, c'est génial, il va peut-être s'intéresser justement aux NFT et à tout système Web3.
Il y a sûrement des gens qui vont acheter. Bon, en gros, si t'as pas lancé ton NFT à fin 2022,
t'as raté ta life.
C'est en retard, c'est ça, exactement.
C'est ça. Bientôt le NFT LCD.
Il y a des podcasts qui ont fait ça, on va pas les citer, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne. Ouais, je sais pas, bon, peut-être, mais pas, certainement pas nous. On va, je pense pas qu'on fera ça. Quoi de neuf chez nous? Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans l'équipe LCDE? Ne stockez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, quoi de neuf chez toi?
Eh bien, chez moi, pas grand-chose, à part que je prépare Tech for Retail activement. C'est lundi et mardi prochain, donc lundi 28 et mardi 29 novembre. Je serai présente uniquement la première journée. Et voilà, donc j'ai déjà regardé un peu les conférences auxquelles je vais participer. Tout ça dépendra de mon heure d'arrivée, puisque je suis toujours en retard, sachez-le, les amis. Donc voilà.
Tu seras disponible pour rencontrer des auditeurs?
Exactement, bah voilà, reconnaissez-moi, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Mettez-vous en mode you. Mais oui, bien évidemment, si vous voulez qu'on se voit, pas de problème. Déjà, de toute façon, je passerai sur les stands des amis. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on discute ensemble, il n'y a pas de problème. Mais bon, je suis beaucoup moins attractive et beaucoup moins intelligente qu'Adrien sur tous les sujets que vous adressez, notamment dans le groupe WhatsApp. Non, donc,
okay,
attendez l'arrivée d'Adrien.
Technique des dévalorisations, mais pas du tout. Mais en tout cas, bon, tu nous raconteras si des gens te reconnaissent à la voix. Mais effectivement, moi aussi, je serai là le premier jour. On prévoit de faire un enregistrement spécial pour couvrir l'événement. Et voilà, donc ça va être plutôt cool et on a hâte. Donc Tech for Retail, on l'a pas dit, mais c'est le dernier événement de l'année, je pense. C'est un événement qui est à Paris, à Porte de Versailles. C'est la deuxième édition et ça se veut le NRF du enfin, je sais pas, du e-commerce,
ouais,
mais en tout cas,
le NRF européen.
Ou français, ouais. Donc très 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 cool. On est vendredi, non, on est samedi là, on enregistre samedi.
Oui.
Hier c'était Black Friday, t'as fait quelque chose, t'as fait des
choses? J'ai rien fait du tout, j'ai boycotté. Par contre, je me suis amusée à lire toutes les newsletters qu'on m'envoyait et c'était encore marrant parce qu'il y avait plein de jeux de mots. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière à cette période, j'avais fait un jeu spécial sur toutes les marques qui s'appropriaient le Black Friday et faisaient des jeux de mots là-dessus. Bon bah là, on a encore eu du lourd, hein, parce que Black Friday maintenant c'est la Black Friday Week pour certaines marques. J'ai vu du Back Friday. Bon, je crois qu'on l'avait déjà vu.
Oui, ça c'est classique, ouais.
Voilà, mais c'est la marque Jules, je crois, qui communique là-dessus et qui proposait justement une journée où vous n'achetez rien, mais vous rameniez des vêtements en boutique et bien évidemment vous proposez des chèques cadeaux. Voilà, bon, bah le classique Black Vénerdy de Poltron et Sofa. Bon, voilà, je me suis plutôt amusée à ça, mais je n'ai rien acheté, non pas par boycott ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais pas le temps et que j'avais besoin de rien en fait, voilà, et que je ne prépare pas Noël ou toutes ces choses-là comme tous les gens parfaits font. Et toi, Adrien ?
Beaucoup de marques se positionnent sur le Black Friday. Ensuite, ces dernières années, c'était non, on va faire l'anti-Black Friday. Puis maintenant, c'est méta de faire un petit peu un truc à côté, de faire un entre-deux ou d'utiliser ça comme un moment d'année où tu fais. Voilà. Non, mais tu utilises ça comme un moment où tu peux communiquer, faire des trucs un petit peu différents. Mais c'est une période où tu peux lancer des campagnes un petit peu originales. On va dire ça comme ça. Non, moi, rien du tout. J'ai, comme toi, été spammé. Je voyais sur les sites pas mal de choses. Mais non, j'ai rien acheté, ça ne m'intéressait pas du tout. Bah, pour preuve, la semaine dernière, je t'ai dit que c'était le Black Friday parce que j'avais complètement loupé.
Les gars animent un truc qui s'appelle le café de l'e-commerce et disent ça ne m'intéresse pas.
Non, c'est pas que ça. Bah non, d'acheter
la plus grosse
à cette
opération.
Non, mais d'acheter à cette période de l'année.
On aurait pu faire des tests, on aurait pu.
On aurait pu. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va regarder est-ce que ça a fonctionné. Ah bah vas-y, balance une prédiction. Est-ce que tu penses que ça va être un bon cru ou pas?
Mais écoute, t'es en train un peu de spoiler mon jeu, mais.
D'accord, on va en discuter.
Je suis hyper partagée parce qu'en fait, je discute avec plein de gens et pour beaucoup de gens, bah oui, ils attendent avec impatience ce moment-là de l'année pour pouvoir, comme je le disais, anticiper les cadeaux de Noël parce qu'il y a cette peur de pas avoir assez, il va manquer, on n'aura pas le choix, il y aura pas les produits et du coup, ouais, je crois que je suis un peu la seule à me dire, non, en fait, je m'en fous complètement, voilà. Mais je crois qu'il y a un engouement quand même.
Après, il faut voir ça avec le lundi, le Cyber Monday, c'est pour ça que je l'inclus tout ça comme une même période. Donc j'ai hâte de voir les chiffres. Je pressens pas quelque chose de très très positif. Donc je sais pas, on verra bien la semaine prochaine quand on aura tout le recul et j'ai hâte de voir ton jeu si tu as commencé à avoir des premiers retours. Moi, je voulais partager deux, trois petites choses. Dans deux semaines, on organise l'Happy Hour de l'e-commerce à Paris. Dans deux semaines ou dans deux semaines et demie,
C'est deux semaines, et oui.
Exactement. Donc, tout le monde est invité. Vous avez le lien sur partout, sur LinkedIn, sur notre
tout
site
monde,
web.
Tout le monde, t'es bien gentil.
Dans les commentaires. Bah, tous ceux qui habitent dans le coin et qui veulent venir.
Moi, je suis désolée. Si vous êtes relou, vous ne venez pas. Si pour nous casser la tête, c'est pas la peine.
On a déjà refusé. Non, je crois pas.
Jamais.
On accepte tout le monde.
Jamais.
C'est gratuit, ouvert, sans sponsor. Donc vraiment, vous venez avec le sourire et vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Vous pouvez ramener des personnes. Donc on est ravis parce que ça nous permet vraiment de fêter l'année avec vous, avec les auditeurs. Et puis ça va être très très cool. On va passer la soirée. C'est des drinks, des petits trucs à manger. Ça sera à partir de 18h et on a hâte de vous rencontrer. Et enfin, dernière chose, la semaine dernière, on a parlé de Miracle. Bah, figure-toi que ça a eu un bon retentissement parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, des personnes de chez Miracle qui nous écoutent. Donc on leur fait un petit coucou et c'était très amusant de voir qu'ils faisaient partie de nos auditeurs et qu'ils étaient contents qu'on ait parlé d'eux. Bon, ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on parle d'eux, mais en tout cas, on vous salue, on est ravis de vous savoir comme auditeurs.
Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on utilise ou qu'on le contourne, par conviction, par passion, par rejet, par dépit, Amazon est un acteur e-commerce incontournable. L'Amazon, c'est la rubrique qui décrypte l'actu du géant américain. Qu'est-ce que t'as repéré de ton côté, Adrien ?
Mais ça faisait suite à la semaine dernière, on avait expliqué qu'ils avaient viré 10 000 personnes. C'est vrai que des fois, on va vite, tu sais, on dit des choses, mais on pourrait passer 2 heures sur chacune de news. Il y a deux choses que j'ai pas couvertes et je voulais juste les rattraper et puis vous annoncer, communiquer sur quelque chose de nouveau qui est apparu cette semaine. La première chose, j'avais expliqué, c'est moins d'1% des personnes. Donc, en fait, c'est une petite goutte d'eau. En réalité, si on regarde parmi les cadres, parce que c'est surtout ces personnes-là, des personnes de bureau qui ont été touchées, on est à 3%, quelque chose comme ça. Donc, c'est surtout ces personnes-là qui ont été touchées. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment tous ceux qui travaillent dans les entrepôts, qui n'ont pas de contrat officiel avec Amazon, mais qui sont dans des prestats, bah, je pense qu'ils ont été extrêmement touchés.
Oui, et que c'est pas communiqué parce que c'est de la sous-traitance.
Exactement. Donc, il y a des effets de bord qui sont encore plus importants parce qu'Amazon va moins travailler, va moins investir, etc. avec ses prestataires. Donc, c'est une petite précision que je voulais faire. Et la conclusion de la semaine dernière, Laetitia, on disait, c'est fait en une fois, mais voyons, parce que ça veut pas, c'est pas impossible que ça soit, qu'il y ait plusieurs vagues. Et ben, écoute, ça a pas attendu parce que quelques jours plus tard, ils ont annoncé, donc ils ont confirmé, Amazon a confirmé qu'il y aura d'autres licenciements qui sont à prévoir en 2023. Donc, en tout cas, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ils s'interdisent pas, ce qui est finalement normal. Enfin, toutes les boîtes, je pense, pourraient aussi communiquer dessus. Mais donc, personne n'est à l'abri. J'aimais bien un petit peu ce que tu avais... la manière dont tu l'avais présenté, c'est Amazon au pied d'argile, c'est ça ? Non, le géant
Colosse. Opal Energy, là.
Le Colosse, exactement. J'ai aucune référence, mais c'est exactement ça. Donc, même Amazon peut être en difficulté ou faire attention. Ce qui m'amène à la deuxième news, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent. C'est tout ce qui va être les sellers, les programmes de sellers, FBA, etc. En gros, pour faire très, très simple, ils sont en train d'augmenter leurs prix. Et donc, Amazon est dans une situation plus difficile. Enfin, le marché est dans une situation plus compliquée. Et donc, ils répercutent les coûts sur leurs vendeurs tiers qui représentent à peu près 60% aujourd'hui des ventes qui se font sur le site Amazon. Donc voilà, donc c'est des petits pourcentages.
Enfin, c'est des petits ajustements.
Donc c'est des petits ajustements exactement qui vont avoir lieu à plein de niveaux. Mais en gros, quand tu travailles avec Amazon, il faut s'attendre à avoir des frais qui sont plus élevés. Laetitia, t'avais quoi? T'avais repéré des choses cette semaine chez Amazon?
Un petit peu comme toi, lorsque j'ai annoncé effectivement. Alors je sais plus moi si c'était moi qui avais couvert la news justement des licenciements, mais je me souviens avoir abordé le fait que pas mal de gens qui travaillaient pour la business unit dédiée à Alexa et tout ça, c'était les gens qui étaient principalement touchés. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le business d'Alexa en réalité? Alors moi, je le confesse, j'ai deux appareils Alexa chez moi. Et je me suis rendu compte que dans mon usage quotidien, ça diminuait. Je l'utilisais beaucoup moins, que j'utilisais d'autres appareils, mais surtout que j'utilisais Alexa pour deux fonctions bien précises. Et c'est exactement ce qu'il en a été retiré d'une étude. C'est quel temps fait-il aujourd'hui? Et puis, alors, j'utilise aussi pour où est ma commande. Et le troisième usage, c'est quand je vais écouter de la musique. J'écoute beaucoup sur Alexa. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai regardé un petit peu que, effectivement, Amazon était pendant très longtemps sur domination sur ce sujet-là, des appareils connectés et tout. Mais ça n'a pas duré parce que, bien évidemment, on a eu des Google qui sont arrivés et des Apple. Et comme c'est des fonctions assez natives depuis un appareil type smartphone, Amazon a perdu beaucoup de parts de marché sur le marché des assistants intégrés aux appareils connectés. Et finalement, ça rapporte plus trop d'argent à Amazon. Pourtant, ça lui en coûte beaucoup, puisque c'était pendant très longtemps le gros bébé de Jeff Bezos lorsqu'il était encore à la tête d'Amazon et il investissait massivement. D'autant que, je le rappelle, Alexa, ça fait partie de la division Worldwide Digital Business d'Amazon qui, entre autres, a Prime Video. Donc, c'est quand même des gros colosses, on va réutiliser cette expression. Les pertes, c'est 3 milliards de dollars de pertes opérationnelles au premier trimestre 2022. Et ce sont des pertes qui sont essentiellement liées à Alexa. Les pertes de parts de marché, comme je disais, c'est essentiellement lié à des gros acteurs concurrents qui sont Google et Apple, qui, je le répète, ont des présences natives sur les plateformes. Et preuve en est, là, si vous ouvrez Amazon, vous allez voir que les premières choses qui sont, j'ai envie de dire même bradées, c'est des appareils connectés d'Amazon. Allez voir, on a jusqu'à des moins 58% sur de l'Alexa et sur d'autres produits. Après, moi, je m'interroge sur l'usage. La stratégie, au départ, c'était quand même d'encourager les consommateurs à acheter plus de produits via Alexa et donc sur Amazon et via la voix, en train de dire Amazon achète-moi du lait. Non. La réalité, c'est qui connaît parfaitement la référence de son lait pour pouvoir être écouté, entendu par Alexa, et puis après combien de quantité, est-ce que je le veux en prime ou pas, enfin voilà, il y a toutes ces choses là sur quel revendeur je le veux qui sont hyper compliquées. Moi personnellement, je préfère dégainer mon téléphone et c'est beaucoup plus simple. Donc le cas d'usage n'est pas avéré, je pense que ne pas être la seule. Pour l'achat de biens via la voix, franchement, c'est pas plus simple, c'est pas plus rapide que d'aller sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc pour toutes ces raisons, je crois que c'est un peu la galère et à mon avis, ça va plus tant être un produit phare. Je crois que ça va être un produit qui va peut-être même tomber aux oubliettes et ça signe peut-être qu'on a déjà dit dans le podcast, peut-être l'inutilité ou en tout cas le déclin des appareils connectés vocaux. Qu'est-ce que t'en penses toi, Adrien? T'en as toi des Alexa et compagnie?
Ouais, j'ai commencé avec les Alexa et ensuite j'ai basculé avec Google parce que c'est plus intégré qu'Android. Moi j'ai un avis tranché là-dessus. Je suis depuis des années, on nous balance la même sauce. Alors, en fait, c'est quoi la promesse? Tu t'en as parlé tout à l'heure, c'est le voice commerce. On nous a dit mais un peu comme le métavers, etc. où on explique si t'as pas compris que c'est en train d'arriver, que ça va tout prendre, c'est que t'es un teubé. Et ça fait des années qu'il y a un marché, des acteurs qui sont là-dessus et qui vont continuer à te montrer plein d'études dans tous les sens que le voice commerce est en train d'exploser. En ayant travaillé pendant des années ces dernières années pour un éditeur, pour une boîte américaine, et j'avais accès à certaines études, on est à moins d'1%, et encore 1% c'est énorme, mais on est à moins d'1% des usages de voice commerce avec les retailers, et ça décolle pas. Alors oui, ils vont te dire, on a fait une progression de 20%, 25%, ok, mais les volumes sont tellement bas, donc cette promesse, à mon avis, elle a pas encore pris. Est-ce que ça va prendre dans le futur? Je sais pas, ça va peut-être se transformer ailleurs, mais je suis complètement d'accord avec toi, la promesse initiale d'avoir ce petit assistant qui vient là et qui va t'aider à te donner l'heure et tout ce que tu dis, on s'en fiche, c'est pas là où il y a le pognon. Ce qu'ils voulaient, ce que voulaient ces assistants, c'est de gérer justement le commerce, parce que du coup t'es la porte d'entrée, bon, tout le marché du voice commerce. Et donc je suis beaucoup plus critique, et aujourd'hui je continue à voir, là il y a quelques semaines, des études qui arrivent, donc on est fin 2022, qui t'expliquent que le voice commerce c'est the next big thing et qu'il y a un marché. Donc peut-être je suis complètement à la ramasse, et donc j'attends qu'on me prouve le contraire, mais je n'y crois pas, déjà en termes d'usage de ce que je peux voir, mais en plus en termes technologiques, où ça en est, ce qui se passe, etc.
Donc pour une fois, je suis de ton côté et je suis plus que très, très, très sceptique. Je pense que ça ne prendra pas le voice commerce. Et d'ailleurs, on n'en parle même plus en réalité. Donc, je. Non. Et du coup, je m'interroge. Est-ce que ce n'est pas l'échec le plus retentissant, le plus cuisant d'Amazon sur ces dernières années? À voir. Green Commerce.
La rubrique positive et feel good pour un commerce plus responsable. C'est la rubrique où on parle des initiatives positives qui ont eu lieu ce marché ces derniers jours autour de la seconde main, de l'écologie et de l'économie circulaire au sens large. Laetitia, tu avais retenu trois news pour nous cette semaine ?
Eh bien oui, j'ai noté trois news. La première que j'aime particulièrement, que j'ai un peu été fouillée, je suis vraiment triste de pas être dans le Nord, parce que c'est Kiabi qui a ouvert les portes du premier magasin Kit Canaille. C'est un nouveau concept store, c'est un nouveau format qui est centré sur la seconde main pour les enfants de 0 à 12 ans. Et c'est 1200 mètres carrés situé dans la zone commerciale d'Auchan, donc c'est toujours dans la galaxie muliaise, hein, on s'écarte pas trop, à Lairs, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bon, en tout cas, c'est dans le Nord.
On va pas ça t'inviter dans le Nord si tu sais pas prononcer les îles.
Non, je sais rien prononcer.
Voilà, c'est sûr, les gens ils vont pas t'accueillir.
Excusez-moi, les nordistes, vous avez le droit de m'insulter sur les réseaux sociaux. Ça ne reprend pas le design, ni le merchandising, ni rien du tout de Kiabi. J'ai regardé un peu les photos que je pouvais voir sur le net. C'est un magasin totalement différent, mais qui s'adresse à toute la famille. Pourquoi ça s'adresse à toute la famille? Parce que depuis la petite enfance jusqu'aux parents, alors là, les parents, c'est pas sur la seconde main, mais c'est plus sur il y a vraiment un espace dédié aux parents où il y aura des ateliers sur la parentalité qui vont être lancés. Mais on a de la petite enfance, de la périculture, un outlet alimentaire, on a aussi un espace sur l'hygiène, on a un point dépôt collecte où tu déposes tes vêtements et tout est automatisé et on évalue le montant des objets que tu viens, pas des objets mais des vêtements, mais ici il y a des objets aussi que tu viens de déposer, tout ça est remis je crois en chèque cadeau. Vous pouvez également, et là j'ai trouvé ça génial, louer un espace en mode vide dressing pour les parents, donc vous pouvez louer pour une durée et vous dire bah voilà, j'ai un stand et ça va être mon vide dressing pendant quelques jours. Bon, ça sous-entend quand même d'avoir du temps d'être capable de rester un petit moment dans un magasin, mais pourquoi pas. Et comme je le disais, bah voilà, le petit espace atelier pour les parents. Je précise que c'est un test et que si ça va prendre, Kiabi pourra déployer ce genre de concept ailleurs, et je l'espère en Île-de-France, pour que je puisse le tester. Donc je trouve ça très bien. La deuxième news que j'ai, c'est Vestiaire Collectif qui annonce vouloir faire le tri dans son offre de fast fashion. C'est tant mieux. Est-ce que la fast fashion, on en trouve sur Vestiaire Collectif? Je sais pas trop. La plateforme le dit haut et fort, la fast fashion n'a aucune valeur à l'achat et encore moins à la revente. Le portail de vente dédié à la seconde main haut de gamme a annoncé qu'il entame à compter du 22 novembre. Donc là, c'est déjà bon. J'ai été regarder, effectivement, je ne trouvais pas trop de fast fashion. Un bannissement des marques de fast fashion telles que, là je vais vous les citer, Asos, Atmosphere, Boho, Nastigal et Pretty Little Things, Burton, Cider, Coast. Bon, il y en a des tas. Sauf que moi, celle que je vois pas, c'est quand même du Zara, du H&M. Bon, je vous rassure, il y a quand même du Shein. Et heureusement, en même temps, je suis pas sûre que les gens achètent du Shein sur Vestiaire Collectif. Donc, effectivement, c'est une superbe annonce. Les gars, ils vont filtrer. Mais est-ce que c'est vraiment en cohérence avec le positionnement de Vestiaire Collectif qui est quand même hyper premium? Et je crois me rappeler que c'est Kering qui était rentré au capital il y a peut-être un an de Vestiaire Collectif. Est-ce que c'est pas plutôt un coup de com en disant bah ouais, moi j'en veux pas? Et c'est très bien, hein, en réalité, mais je suis pas certaine qu'on trouve ce genre de produit sur Vestiaire Collectif. En tout cas, moi pour mon usage, j'ai déjà utilisé Vestiaire Collectif, c'est pas ce que je voyais et c'était pas du tout ce que je recherchais.
C'est, à mon sens, la définition même du greenwashing. Donc, je ne vais pas me faire des copains, mais à partir du moment où tu annonces quelque chose qui n'a absolument aucun impact, parce que de toute façon, je vais même plus loin, toutes ces machines, c'est complètement débile de dire que je ne vends pas du Chine, parce que ce n'est pas du tout son positionnement.
Ouais.
Ça décrédibilise. Donc, à partir du moment où ils font une annonce qui n'a aucun impact sur leur site, parce que c'est de toute façon pas leur positionnement, c'est que de l'annonce.
Tu as ouvert ta bouche pour rien, c'est ça ?
Et c'est, pour moi, c'est greenwashing. Chine, en plus, seconde main de ces marques, là, au bout de, on en a déjà parlé plein de fois, au bout de 5-10 lavages, est-ce qu'il y a vraiment de la seconde main pour ces produits-là? Pas sûr. J'ai trouvé que c'était extrêmement maladroit, la manière dont ils l'ont annoncé, dont ils communiquaient dessus. Donc, j'attends qu'on me prouve le contraire, mais pour moi, c'était pas du tout, c'était pas fait correctement. Par contre, la bonne chose, c'est à partir du moment où tu communiques, parce que t'es vestiaire collectif, bah, ça a fait du bruit, ça a été repris par les médias et ça a gagné en visibilité. Donc, ça va peut-être, tu sais, c'est le petit domino qui va commencer
à prendre impulser un mouvement.
Des trucs, etc. Exactement, exactement.
Mais moi, je me suis interrogée, est-ce que Vinted ferait la même chose? Pas du tout, parce que justement, Vinted, son cœur de métier, c'est de revendre de la fast fashion. Donc, pourquoi ouvrir sa bouche pour se positionner comme ça? Enfin,
c'est même pas leur positionnement.
C'est même pas leur positionnement, donc on comprend pas trop.
On vend pas de Chine, quel rapport? Oui, ok. Mais en fait, tu vends pas du Chine, ok, mais ne le dis pas que c'est parce qu'on est green, etc. Ou alors tu vends pas de Chine parce que
tu n'as jamais vendu de Chine et que tu n'as aucun intérêt à vendre du Chine.
Donc, j'ai pas du tout kiffé cette annonce.
Du coup, c'est pas du tout une annonce feel good, mince.
En plus, c'est moi qui te dis qu'il faut rester feel good, etc. Donc, bon, bref. Vas-y, c'est quoi la dernière news que tu as?
La dernière news, bien, c'est Zalando qui décide d'abandonner son service de seconde main Circle pour pre-owned. Alors, je vous remets un peu dans le contexte. Zalando, en 2019, lançait Circle, un peu quand même précurseur. C'était une boutique de seconde main dédiée essentiellement à la mode féminine et c'était à Berlin. Dans la foulée, Circle, c'est devenu un service en ligne, mais à part de Zalando, développé dans presque une dizaine de pays. Et puis là, le 16 novembre, bim, on décide de fermer Circle. Et Zalando l'explique en disant « Mais c'est pas la fin de Zalando sur la seconde main, parce qu'il y a quand même de l'oseille à se faire, les gars. » Et on décide de lancer Pre-Owned. Pre-Owned, c'est la plateforme d'achat et de revente sous forme de chèque cadeau, directement actionnable sur Zalando. Donc on ne sort pas, tout rester dans Zalando. Ou sous forme de dons à des associations. Pre-Owned n'est pas du tout à part, comme je le disais, mais c'est directement intégré à la marketplace Zalando. L'objectif pour Zalando, bah, c'est bien évidemment de capter une part de marché certaine sur le secteur de la seconde main, basée sur ses clients qui ne doivent pas aller chez le concurrent lituanien, et bah, je le répète, qui est Vinted. Et petite info, sur le premier semestre, Zalando était le premier vendeur en ligne de mode en France devant Amazon et Vinted. Donc il y a quand même une grosse part de marché à prendre, en tout cas une bonne captation de sa clientèle. Moi, à mon avis, c'est quand même une réponse directe à Vinted, mais peut-être un peu tardive. Et c'est aussi, ça rappelle un peu ce qu'a fait VP avec Recycle, seconde show de showroom privé. Donc voilà, on est dans une logique de réappropriation de la seconde main.
Moi, c'est le contraire de la news précédente. Je trouve ça extraordinaire et très très positif. Et déjà, j'aime pas trop la manière dont la news est communiquée. C'est Zalando abandonne son service de seconde main. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils vont l'internaliser, mais je trouve ça extrêmement positif du fait que c'est plus du coup un business tiers ou un business à part. Ils vont l'intégrer dans leur core business. Ils intègrent le business de la seconde main, de l'économie circulaire dans leur site principal, dans leur panier, dans le checkout, etc. Donc je trouve ça très très bien et c'est la direction dans laquelle de toute façon le marché est en train de se diriger. Il y en a d'autres qui sont en train d'avoir des initiatives dans ce sens et donc je suis très content et je trouve que c'est une très 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 bonne chose.
Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un invité expert dans l'industrie. Cette semaine, on passe le mic à Émeric Ernoux, le cofondateur d'Agora Pulse, la solution de gestion de réseaux sociaux.
Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Émeric. Bonjour Émeric.
Bonjour Adrien.
Émeric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas?
Alors, Émeric Ernoux, je suis un avocat de formation, mais qui est devenu entrepreneur il y a 22 ans et j'ai longtemps galéré à essayer de réussir un business qui a fini par fonctionner. Celui qui a fini par fonctionner, il s'appelle Agora Pulse. Il a aujourd'hui 170 employés dans plus de 15 pays. Il fait 20 millions de chiffre d'affaires annuel et il fait du social media management, c'est-à-dire qu'il aide les professionnels du social media, les gens qui font du marketing sur les réseaux sociaux, à avoir un quotidien plus agréable et un travail plus efficace et à mesurer les résultats de leur travail.
Il n'y a pas un épisode où on ne parle pas de social media avec Laetitia. On est à quel niveau de maturité? Parce que pour si je me fais l'avocat du diable, le social media, ça te permet d'acquérir au mieux du trafic vers ton site. On en est toujours là ou ça va bien plus loin qu'un juste canal d'acquisition?
Alors, on en est encore beaucoup là et on en est encore au tout début d'un changement de maturité. Si je devais donner des chiffres, ils vont être basés sur ce que je constate. Donc, ce ne sont pas des statistiques Nielsen. c'est basé sur mon expérience. Je pense qu'on est encore à 97-96% d'entreprises e-commerce qui n'ont pas encore réussi à changer la façon dont ils travaillent sur les réseaux sociaux pour justement créer plus de liens entre le résultat e-commerce que l'entreprise doit aller chercher, qui est faire du chiffre d'affaires, faire des ventes, trouver de nouveaux clients, et l'activité de création de contenu sur les réseaux sociaux qui ne sert pas assez cet objectif-là. Alors, les réseaux sociaux, ils sont tous dans une quête effrénée à essayer de créer du chiffre d'affaires chez eux. Et donc, d'où la création des catalogues produits, la mise en avant des produits dans les posts, etc., etc. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas extrêmement simple et basique à mettre en œuvre. Donc, ça demande un niveau de maturité, de compréhension et d'expertise que, encore une fois, les personnes qui font la partie social media n'ont pas forcément.
Tu vois, nous, avec Laetitia, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans qu'on commente, mais côté marché et consommateur et également plateforme, donc les réseaux sociaux. Ce qui est passionnant avec toi, c'est que toi, tu travailles avec les marques, les annonceurs, tu les vois tous les jours. Et du coup, dans ces 3%, on va dire dans les marques, déjà par définition, celles qui vont te voir ou qui travaillent avec toi, elles sont déjà plus matures que la moyenne du marché. C'est quoi leur strat social media là, fin 2022? C'est acquisition de trafic, c'est convertir sur les réseaux sociaux, c'est un mix des deux?
Alors, convertir sur les réseaux sociaux, c'est amener depuis les réseaux sociaux du trafic qualifié qui va être susceptible d'acheter les produits sur le site marchand.
Elles voient un ROI positif à faire ça? Tu vois que ça fonctionne? Ou tu sais, il y a 10 ans, bah, on était là, je vais pas dire ton âge, mais tu es peut-être un peu plus âgé que moi. Il y a 10 ans, les Facebook Shop, tu vois, il y a eu des tentatives justement de convertir sur le social media et ça a complètement raté. Enfin, il n'y avait pas de ROI. Là, tu vois, avec tes clients qui ont un ROI positif.
Alors, les Facebook Shop d'il y a 10 ans, puisque tu en parles et que tu les as connus et que je les ai connus, c'était un onglet dans la page. Donc, c'était un mini site web dans la page Facebook.
Exactement.
Dans lequel il fallait amener les gens. Donc, c'était l'antithèse de ce qui fonctionne. C'est-à-dire, ce qui fonctionne, c'est d'aller où sont les gens. Les gens, ils sont où? Quand ils sont sur les réseaux, ils consultent les feeds. Ils consultent les feeds vidéo TikTok, ils consultent les feeds photo Instagram, ils consultent les feeds de news, de nouvelles, etc., etc., Facebook. Si c'est pas là que tu vas, ton truc est voué à l'échec. Donc, ce qui s'était fait il y a 10 ans, c'était voué à l'échec à cause de ça. On pouvait pas recréer un écosystème web vers lequel on cherchait à amener les gens dans Facebook. Il fallait aller là où ils étaient. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on place les produits dans les publications. Alors, évidemment, tout l'enjeu, c'est de placer les produits de manière pertinente et à valeur ajoutée. Si tu places un produit et que ça sent la promo à plein nez, ça ne fonctionne pas. Et si tu places un produit auprès d'une communauté qui est très, très motivée et très, très intéressée par ces produits, ça fonctionne extrêmement bien. Je vais juste te donner un exemple. On a un de nos clients qui vend des médicaments à base de plantes parce qu'il s'adresse à une communauté extrêmement active et extrêmement passionnée de gens qui refusent de se traiter avec la médecine traditionnelle. Voilà, ça existe. J'en fais pas partie, mais je comprends très bien parce que ça fonctionne. Tout le monde connaît l'homéopathie. Il y a plein de choses qui ne sont pas de la médecine traditionnelle et qui fonctionnent. Et ils ont, eux, une façon de vendre dans leur groupe Facebook et sur leur page Facebook qui fonctionne très bien, où ils font des contenus principaux qui sont des contenus principaux qui n'ont rien à voir avec les produits et qui n'ont rien à voir avec la vente elle-même, mais qui ont à voir avec le concept même de se soigner avec des plantes et en quoi c'est bon et en quoi c'est bénéfique, etc., etc. Et dans les conversations qui ont lieu sur ces posts, dans les commentaires, donc là, ils mettent les liens. Ah bah tiens, on a ce produit-là, quelqu'un vient poser une question, bah on a ce produit-là, etc., etc. Ces gens-là, ils génèrent entre 70 et 80 000 dollars de chiffre d'affaires par mois, rien qu'en faisant ça sur leur groupe Facebook et leur page Facebook.
C'est presque du one-to-one.
Voilà.
C'est pas du one-to-one, mais c'est vraiment hyper personnalisé, quoi. C'est segmenté, en tout cas.
Hyper personnalisé et qui s'adresse à une communauté de passionnés du sujet. Ils sont vraiment là pour apprendre à comment est-ce qu'ils vont se soigner avec ces produits-là, qui sont pas les produits de médecine traditionnelle, qui sont les produits à base de plantes. Et donc, ce que ça veut dire, si tu veux, c'est qu'ils ont pas bourriné dans les postes à longueur de journée, achète ci, achète ça. Ils ont été, de manière intelligente, apporter de la valeur à la communauté qui s'intéressait à ce qu'ils faisaient.
Émeric, je vais te poser une question à 1 million de dollars ou 1 million d'euros et t'auras 2 minutes pour répondre.
C'est pareil maintenant.
T'as raison. La solution AgroApple, ça permet la gestion. Ce qui est intéressant, c'est la gestion sur plusieurs sites, plusieurs réseaux sociaux. Donc, vous n'êtes pas juste sur un seul réseau social. Et vous avez toute la partie data analytics. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur des choses contre-intuitives que tu as pu voir sur certains réseaux sociaux par rapport à d'autres ou certaines initiatives, peut-être des légendes urbaines, des choses qu'on croit qui fonctionnent et qu'en fait, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Tu as des insights comme ça par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux par tes marques?
Ouais, des trucs qui m'ont extrêmement surpris, c'est que Instagram est un très gros pourvoyeur de chiffre d'affaires aux sites e-commerce avec lesquels on bosse. Et je m'y attendais pas du tout parce que sur Instagram, comme tu le sais, on peut pas mettre de lien. On peut avoir qu'un lien dans la description du profil, mais on peut pas avoir de lien dans les posts et les commentaires eux-mêmes. Et j'ai un petit peu creusé le sujet. Et là, ce que j'ai découvert et appris, c'est que la plupart du trafic, il vient des conversations un à un dans les messages privés. Et donc, les e-commerçants qui arrivent à générer du business avec Instagram le font beaucoup à travers l'engagement qu'ils ont avec leurs audiences et leur communauté. Donc ça, c'est un des trucs contre-intuitifs qui m'a beaucoup surpris dans ce que j'ai appris.
Ouais. J'aurais jamais imaginé, mais c'est des robots qui répondent,
non, c'est
des
chatbots
ou des personnes.
C'est des personnes.
C'est vraiment, tu vas chercher client par client.
Ouais, absolument. Mais quand ils pensent, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas dans un magasin, c'est un robot qui te sert, qui te conseille, qui te dit quelle fringue va t'aller, quel sandwich il faut acheter. C'est des gens, c'est pareil. Hein. Et pourquoi est-ce que tout devrait être scalable à des échelles incroyables en ligne, alors que dans la vie réelle, on a beaucoup d'êtres humains qui nous aident à acheter les choses qu'on achète, quoi.
Et peut-être justement, cette limitation technique produit Instagram, elle a permis une innovation et quelque chose qui fonctionne très bien, parce que c'est du coup d'une relation un à un. Quand on parle réseaux sociaux, je souris parce que je veux t'emmener sur le sujet des influenceurs. Et ça peut très vite être un sujet clivant et on peut en parler, on va aller dans tous les sens. Comment est-ce que toi, tu vois que tes marques se positionnent? Comment est-ce qu'elles travaillent avec les influenceurs? Est-ce que tu as, pareil, des insights ou des données à nous partager?
Alors, la principale que j'ai à partager, c'est un truc que j'entends encore et encore et encore tout le temps à chaque fois qu'on aborde le sujet, c'est que ils ont cette intime conviction qu'ils doivent le faire, qu'il faut le faire, que c'est important, mais ils ont une énorme problématique avec le fait qu'ils n'arrivent pas à mesurer ce qui fonctionne et trier le bon grain de livret des opérations influenceurs qu'ils peuvent faire. Donc là, il y a un vrai truc à régler, il y a un vrai problème sur le marché qui est tout le monde veut le faire, tout le monde trouve que le marketing traditionnel, Google Ads and Co, il est très onéreux, très difficile, très concurrentiel, et que donc il faut essayer d'autres choses et il faut essayer des opérations un petit peu plus ciblées, justement, avec des influenceurs qui vont avoir accès à une audience auquel on cherche à avoir accès, qui n'a pas besoin d'être énorme et qui est hyper engagé et qui va hyper bien réagir. Mais il demeure un problème de mesure de l'efficacité et du succès de tout ça qui est réel et qui, à mon avis, freine la possibilité d'expansion de ce canal marketing.
Si je te paraphrase, Émeric, c'est ils ont compris qu'il faut travailler, enfin, il y a un levier qui est intéressant, c'est celui des influenceurs. Ils ont compris qu'il faut aller vers plutôt des influenceurs de niche ou plus petit qui a une communauté. Ils savent comment générer l'envie auprès de cette communauté. Par contre, l'aspect peut-être le plus important, c'est est-ce que ça a fonctionné. C'est-à-dire, j'ai mis de l'argent et je suis incapable de savoir le ROI, c'est ça, les impacts. Ça me paraît hyper contre-intuitif ce que tu dis là. Comment c'est possible? C'est les marques qui cherchent pas ou elles ont pas pareil? C'est des limitations techniques des réseaux sociaux ou c'est quoi la raison?
Il y a clairement des limitations techniques parce qu'ils savent pas comment le faire. Il y a clairement aussi des difficultés qui sont liées à ce qu'on pourrait appeler le dark social, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que un influenceur peut créer sur les réseaux sociaux pour une marque qui va être potentiellement visible, traçable. Encore une fois, il faut avoir les outils en place et avoir fait les choses correctement. Mais il y a toute une partie qui ne va pas l'être. Et comment est-ce qu'on va pouvoir estimer le ratio entre les deux pour se dire ok, au global, on peut estimer que et il y a rien à faire. Le marketeur digital, il est habitué à traquer tout et tout le temps, et il est habitué au Google Ads, au Facebook Ads, au LinkedIn Ads and co. Et ils se disent, si je peux pas arriver à dire j'ai dépensé et tant, j'ai ramené tant, je n'arriverai pas à renouveler mon budget l'année prochaine. Et quand ça est difficile à faire dans le cadre d'opérations influenceurs, eh ben, ils les font petites. Ils en minimisent la partie dépenses peut-être. Parce qu'ils savent pas défendre d'aller en chercher plus, quoi.
On est fin 2022, le marché de la pub est en train de se casser la figure parce que le marché de la consommation il est morose. Est-ce que tu vois que les investissements, on va parler là des vraiment des marques avec qui tu travailles qui sont e-commerce, est-ce qu'elles investissent moins sur le reach et l'awareness et elles sont beaucoup plus intéressées pour justement de la conversion ou non? Est-ce qu'il y a des changements de comportement auprès des marques et des investissements? Et pardon, alors ça fait 50 questions, mais est-ce que tu vois que des investissements qui sont moindres, parce que toi tu traques tout, donc tu vois les présences sur les réseaux sociaux et c'est lié aussi avec les investissements en pub, tu vois des changements de comportement?
Il y a clairement des changements de comportement liés à la capacité à investir dans des choses qui ne sont pas mesurables. Ça, c'est une évidence. Les premiers budgets qui sautent quand on est en période de crise, c'est des budgets dont on n'arrive pas à mesurer l'efficacité. Mais on est tous pareils. Quand je parle à des audiences de social media marketeurs ou social media managers, le truc que je leur dis, c'est oubliez pas une chose. Votre patron ou le patron de votre patron, le CEO de votre boîte, il raisonne comme moi. Quand c'est la merde, il regarde tous les postes de dépenses, il regarde tous les budgets et dit, est-ce que celui-là, si on le coupe, on est sûr de perdre ou on n'est pas sûr de perdre? Et si on le coupe, on n'est pas sûr que ça va nous coûter. Ben on le coupe, puis on regarde. Et donc, il faut impérativement, quand on fait ce genre de métier, qu'on ne se retrouve pas dans le siège, dans le fauteuil de celui qui va être coupé. Et comment on fait ça? On fait ça en pouvant prouver que ça a fonctionné. Encore une fois, retour sur les opérations influenceurs, si on n'est pas certain de pouvoir les prouver, on ne va pas aller se battre pour avoir un budget à 100 000. On va faire, bon, on prend un budget à 10 000, puis on essaiera de voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Mais on ne va pas beaucoup investir sur les choses qu'on n'arrive pas bien à mesurer.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu es dans le day-to-day, tu vois les choses, tu as des intuitions, tu connectes les points entre eux. Mais quand tu es le patron d'une business unit ou le patron d'une entreprise, tu as besoin d'un dashboard, de métriques et l'intuition, elle n'a pas sa place. Et donc, tu as complètement raison.
Et ton regard, il est big picture sur la protection de la sûreté de la boîte et des finances de la boîte. Et donc, tu es obligé de prendre des décisions avec un minimum d'informations et d'insights sur les choses. Et ta vision, elle est beaucoup plus chirurgicale, c'est clair. Oui.
Je ne peux pas continuer de discuter avec toi, Laetitia me tuera si je ne te pose pas une question à propos de sa nouvelle passion, c'est TikTok. Depuis le début de l'année, depuis ces dernières années ou ces derniers trimestres, on voit TikTok prendre tout gagner sur tous les terrains. En septembre, ils ont commencé à annoncer qu'ils réfléchissaient à se mettre même à proposer la livraison, donc ils sont même en train de transformer leur modèle. Mais en tout cas, l'e-commerce, c'est clairement quelque chose vers lequel ils veulent aller. Ils s'en cachent pas. Moi, j'aimerais savoir à ton niveau, et à ce que tu vois avec les marques, avec les stats et en travaillant avec les réseaux sociaux, est-ce que tu as des choses à nous partager sur TikTok? Est-ce que tu vois que les consommateurs ils sont plus sur TikTok? Est-ce que les marques elles comprennent ce que c'est TikTok ou elles comprennent pas? Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus?
Alors, ce que je peux te partager, j'ai encore énormément de questions comme toi sur TikTok et un des objectifs qu'on a sur les 6 prochains mois, c'est d'y apporter des réponses. Donc si ces questions si t'as pas encore eu les réponses à ces questions dans 6 mois, on se reparlera et je viendrai te dire les réponses qu'on a pu trouver. Ce que je peux te dire déjà et que je sais, c'est qu'il y a eu pas mal de réseaux sociaux qui sont apparus depuis qu'on s'est lancé en 2012, hein, ça fait un petit moment déjà. Par exemple, Snapchat ou Pinterest. On aurait aimé pouvoir les ajouter, mais on n'a pas eu une énorme demande du marché. C'est-à-dire que la demande marché, elle était là, mais elle était relativement raisonnable et relativement contenue. Donc, on n'a pas ajouté Snapchat aujourd'hui sur notre plateforme. TikTok, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où TikTok a ouvert son API et il y a eu quelques outils qui l'ont intégré, on a eu des demandes tous les jours. On a eu des clients existants qui nous demandaient tous les jours et on avait un prospect sur 3 qui nous demandait si on avait TikTok et qui était très déçu quand on disait qu'on ne l'avait pas.
Mais parce qu'eux, ils sont sur TikTok ou ils demandent juste pour savoir? Ils sont déjà sur TikTok?
C'est ça qui est très intéressant. La plupart n'y étaient pas encore, mais nous disaient « on va y aller, on va y être, donc on veut être outillé pour le jour où on sera prêt ». Et ça a été, c'est quelque chose qu'on a constaté avec TikTok. Et encore une fois, on l'avait pas vu avec les autres réseaux. Je te parle des réseaux post Facebook, ouais. Instagram, LinkedIn, Twitter. Enfin, les quatre grands classiques. Et donc, ça, c'est une vraie différence. C'est une vraie nouveauté par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Donc, clairement, il y a un engouement des utilisateurs. C'est une évidence. TikTok, c'est colossal et c'est un niveau de croissance qu'on n'a jamais connu avant sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi une vraie prise de conscience de la part des marques et des e-commerçants qui se disent « Ok, je ne vais pas pouvoir éviter TikTok en 2023 ou fin 2022. »
Aymeric, est-ce que tu peux regarder dans ton tiroir la petite boule de cristal, tu peux la sortir l'année prochaine, comment ça, est-ce que ça évolue? Et vous, AgoraPulse, qu'est-ce que vous avez dans la roadmap? Comment est-ce que vous allez continuer à suivre le marché? Parce que c'est extrêmement difficile de prédire ce qui est en train de se passer dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce que ça évolue très 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 vite. Tu as une intuition vers où ça va et vous allez dans quelle direction?
Ouais, alors 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça va encore. On est quand même arrivé à un stade où les choses se sont un petit peu posées et où les marchés se renversent pas en 3 mois. Ils se renversent en 12 à 18 mois, mais ils se renversent pas en 3 mois. D'ailleurs, TikTok, ça a renversé le marché en 18 mois, mais pas en 3 mois non plus quand même, quoi. Il y a 2 ans de ça, TikTok, c'était encore quelque chose d'inexistant. 2 ans plus tard, c'est devenu énorme. Il y a pas un nouveau TikTok qui arrive. Donc déjà, la boule de cristal, elle me dit ça. C'est que s'il y a disruption, c'est de eux qu'elle va venir. En tout cas, beaucoup dans les 12 mois qui viennent. Donc nous, évidemment, là-dessus, on renforce beaucoup les outils qu'on a développés pour faciliter la vie des social media managers et des community managers au quotidien. Ça reste un objectif prioritaire stratégique essentiel, c'est-à-dire que le quotidien des gens qui font ce travail de créer une jolie présence et attirante et attrayante pour les audiences sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit les meilleurs, parmi les meilleurs là-dessus. Ça, c'est un axe prioritaire. Mais le deuxième axe prioritaire, c'est celui que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que nous, on veut que ces gens-là, ils soient reconnus dans l'entreprise. On veut que ces gens-là, dans l'entreprise, on les regarde en disant le social media manager, c'est quelqu'un de stratégique dans l'équipe marketing, parce que le social media manager, il nous apporte X. Et que X est hyper important. Et nous, on s'est vraiment fixé comme objectif stratégique pour les années à venir d'être l'outil qui va permettre aux social media people dans l'entreprise de remonter en importance et en positionnement stratégique dans la boîte, parce qu'ils vont pouvoir prouver que ce qu'ils font, ça marche. Et ce qu'ils font, ça marche comment? Alors, ça marche en trafic, bien sûr, mais ça marche aussi en conversion, en lead et en revenu.
Aymeric, c'est passionnant, pour en rester à discuter encore des heures. Quand je suis un auditeur, je suis intéressé pour en savoir plus, ou je veux te contacter pour poursuivre la discussion, c'est quoi le moyen le plus simple?
Alors, le moyen le plus simple, c'est via LinkedIn. Et si tu me fais une invitation LinkedIn, parce que j'en ai beaucoup et beaucoup de spameuses auxquelles j'ai pas trop envie de répondre, mets bien la petite note en me disant j'ai entendu ton interview ici et là, très intéressant, j'aimerais en parler avec toi. Et là, systématiquement, j'accepte, et voilà. Donc c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec moi.
Aymeric, si on veut se former ou en savoir un peu plus, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des ressources à disposition?
Alors, excellente question, Adrien. Notre équipe data a travaillé avec notre équipe marketing en France pour analyser plus d'1 300 000 posts générés sur les réseaux sociaux par des entreprises e-commerce. Et ils ont sorti un e-book absolument incroyable qui, ayant décortiqué tout ce contenu qui est le contenu qui est posté par nos clients. Donc, c'est un contenu absolument unique, hein. Tu trouveras ça nulle part ailleurs. Pour en ressortir les bonnes pratiques, les choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent pas. Donc, c'est un e-book dont on pourra sûrement trouver le lien dans les notes du podcast, que je recommande très, très chaudement, parce que ça donnera à tout un chacun qui est dans le e-commerce et qui travaille sur les réseaux sociaux une bonne photo à ce moment-là, enfin, au moment où ils vont le lire, de l'analyse de ce qu'on a fait, des bonnes pratiques du e-commerce sur les réseaux.
Ouais, et puis il est tout chaud, il est sorti il y a quelques jours, et on
Absolument.
Sait que les choses changent très vite. Donc, c'est un contenu extrêmement intéressant.
Donc, il est à jour. Dans un monde où tout change très vite, il est à jour.
J'aime bien, parce que la raison pour laquelle on discute, c'est que vous êtes social, mais il y a beaucoup de silos et vous parlez beaucoup d'e-commerce. Donc, j'invite aussi tout le monde peut-être à suivre votre page LinkedIn, parce que vous relayez les informations et ça te permet.
Absolument.
Je suis pas trop newsletter. Je sais que Laetitia est très newsletter, mais en tout cas, on n'a aucune excuse pour pas vous suivre, parce que vous avez plein de moyens différents de connecter avec vous. Écoute, Aymeric, merci beaucoup. Je pense qu'on va se reconnecter, enfin, on va échanger dans quelques mois encore, parce que je serais très, très intéressé d'avoir ton retour après quelques mois à travailler avec TikTok et cruncher un peu la data dans tous les sens. Mais dans tous les cas, c'était passionnant. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.
Merci, Adrien.
Reco micro, micro reco, au micro, on fait notre reco. Écoutez-la, illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Et cette semaine, la reco de la semaine, c'est...
Le Bullshitter. Je remercie une de mes amies qui m'a envoyé ça en me disant « Laetitia, est-ce que tu connais ?» Et là, j'ai admis, j'ai dit « Bah non, elle me fait quoi ? Toi, tu connais pas ?» Le Bullshitter, c'est un générateur de concepts à usage des cadres de la nouvelle économie en quête de flamboyance. Ça, c'est un peu leur tagline. En gros, le bullshitter met aléatoirement, bout à bout, des mots vus et entendus dans le monde ésotérique du numérique ou du digital, c'est comme on veut. Il y a 4 thèmes, Et Adrien, je suis obligée de te le faire parce que franchement, moi, j'ai bien rigolé. Et donc là, si je vais sur le thème bullshit phrase, projeter la big picture confusante. T'as déjà dû l'entendre ça, ou même peut-être que tu l'as dit. Ça prête tes mots,
ouais,
ça.
Mais moi, mais,
big
ouais,
picture
c'est exactement ça.
Confusante, voilà. Ce que j'aime bien, c'est ouais. Bullshit job, global lap enthusiast. Tu sais tous ces titres qu'on se met là sur LinkedIn qui ne veulent absolument rien dire, qui n'ont aucune traduction cohérente. Bah c'est un peu ça. Allez, un petit dernier, le bullshit meeting. Tu sais, c'est ce qu'on met quand on t'envoie une invitation. Et là, on te dit « meeting d'expression de besoins pluriannuels ». Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. Mais bon, en tout cas, on est invité à cette réunion, il faut y aller. Et le petit dernier, le bullshit tool, quadrilatère des antécédents synoptiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais, j'ai compris aucun mot. Ok. Donc, en tout cas, il y avait plein de sites qui existaient comme ça, qui faisaient des noms de boîtes ou des idées de boîtes, etc. Mais j'ai regardé ce site puisqu'il a l'air pas mal. Et il est en français, parce que la plupart que je connaissais,
pardon,
ils étaient
en
anglais.
En français,
donc
ouais,
là, c'est plutôt cool. C'est la fin de l'émission, on relâche la pression, la vie c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre. Le panier surprise, c'est la rubrique des jeux autour du e-commerce, c'est la signature, le café de l'e-commerce, aucun autre podcast ne le fait. Et cette semaine, on va jouer et on va rigoler avec Laetitia en maître du jeu et puis moi-même, on a deux jeux. N'hésitez pas de votre côté à vous prendre au jeu et à participer pour trouver les réponses le plus rapidement possible. Laetitia, cette semaine, quel jeu tu avais ?
Moi, j'ai un chiffre de la semaine. Je commence. Si je te dis 398, tu me dis que c'est le prix de l'Echo Show 15 sur Amazon, en ce moment même. Tu me dis que c'est le budget moyen des Français pour le Black Friday, ou tu me dis que c'est le nombre de visiteurs sur la page LinkedIn LCDE ces derniers 30 jours.
Bah écoute, c'est pas le premier parce que c'est beaucoup plus bas, et puis malheureusement, comme tu m'as dit tout à l'heure que j'allais te spoiler dans ton jeu, donc je dis la deuxième réponse. Je sais pas si je l'aurais trouvé, mais donc c'est le budget pour la Black Friday. Ça me paraît
c'est
beaucoup.
Ça, mais ça me paraît énorme, et il y a une augmentation de 100€ par rapport à l'année dernière. Ça augmente notamment parce que les Français ont décidé d'acheter davantage de produits high-tech, dont ils ont peur que ces produits souffrent de la pénurie. Voilà. Complètement dingue.
Est-ce que tu as le prix des autres propositions, enfin les bonnes réponses des autres propositions ?
Bien évidemment. Le prix de l'Echo Show 15 d'Amazon, il est en ce moment à 199€ sur Amazon.
Ouais,
son prix normal
cher,
est 249 okay. Quand même. Et le nombre de visiteurs de la page LinkedIn, qui est totalement, je pense qu'il y a un problème dans l'algorithme, sur ces derniers jours, sur la page LCDE, c'est 114. C'est pas possible, les gars. Faut venir plus souvent sur notre page.
Non, mais je crois qu'il y a eu une mise à jour de l'algorithme, parce que c'est
ah
juste
oui,
n'importe
oui,
quoi.
Oui.
Enfin,
ah bah
les
c'est
publications,
vrai.
Elles ont quand même pris. Et puis, bon, il y a l'algo LinkedIn. Ouais, c'est, il se passe beaucoup de trucs.
Ils nous emmerdent l'algo
rien,
LinkedIn,
donc, voilà,
qu'on se le dise.
On se prend pas la tête, on fait ce qu'on veut. Et puis, et voilà. Mais c'est très compliqué, effectivement, pour les publications. Et d'ailleurs, il y avait une question dans le WhatsApp, comment on peut s'abonner à un profil ou à une page. Et c'est vrai que ça n'existe pas et ça pourrait résoudre pas mal de choses si tu pouvais t'abonner un peu en mode chaîne YouTube,
ça,
je sais pas quoi, tu t'abonnes.
Ouais.
Exactement. Et tu es sûr de les devoir, de regarder ce que tu as loupé ou pas.
Alors moi, j'ai eu cette discussion ouais. Notamment avec une nana de la tech qui en avait marre de voir que des mecs qui s'exprimaient et elle m'a dit qu'elle a entrepris un grand ménage et que maintenant dans son feed, eh ben, il n'y a que des meufs qui parlent effectivement de la tech, mais genre ça lui a pris énormément de temps de nettoyer et de.
Il faut le faire au fil de l'eau.
Ouais, exactement.
De liker, etc. Et puis tu as le bouton ne me montre plus ça, etc. Quoi.
Ah ouais, c'est relou à faire. Quoi.
Ah ouais, c'est long. Mais il faut le faire petit à petit et tout ça, quoi. Mais ouais, effectivement.
J'avais
un petit jeu, c'est le French Connection. French Connection, je te donne des mots, il va falloir que tu me dises qu'est-ce qu'il les lit. Alors, pour trouver le thème qui lit tous ces mots, je vais quand même te donner un indice parce que c'est extrêmement difficile. Je vais te donner deux mots qui vont t'aider, c'est classement et agroalimentaire. Donc je te donne, le premier c'est Rémi Cointreau, deuxième c'est Danone, Bonduelle, Barilla.
Ah, je sais, Barilla, ça y est, j'avais news en plus sur Barilla. Ils sont pas genre dans un truc à impact, ils font des trucs pour l'écologie et tout.
Exactement, exactement. Félicitations, c'est Le Point qui publie avec Statista son palmarès 2023 des entreprises les plus vertueuses en matière d'ESG. ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on retrouve donc devant les Danone, Nestlé et compagnie, on retrouve Rémi Cointreau. Et je l'ai trouvé
ça
sur...
Il n'y a pas Nespresso dans les... Je crois avoir vu.
C'est possible. Ils doivent y être. En tout cas, j'ai trouvé ça avec... Eric Vallet, son CEO qui communiquait. Et donc voilà, Nestlé, ils sont 9e. Donc voilà, Pernod Ricard, 15e. Donc voilà. Donc vous retrouverez le lien si vous voulez le voir. Mais en tout cas, je trouvais ça très sympa de voir une marque française telle que Rémi Cointreau qui se positionne devant des groupes aussi gros que ceux qu'on vient de citer. Comment ça se fait que tu l'as
Parce
lu,
que j'avais
Alexia
une super news sur Barilla que j'ai pas mise. Et
c'était Baria qui faisait le truc, la playlist des pâtes, non?
Alors, ils ont fait ça et là, ils ont lancé la cuisson passive. Et en fait, ils vous expliquent comment faire des économies d'énergie lorsque vous cuisez vos pâtes. Et ils ont créé un site dédié à ça. Et franchement, c'est juste génial parce qu'ils ont même créé un petit outil que vous pouvez mettre sur votre casserole pour vous permettre d'économiser. Au début, je me suis dit, c'est what the fuck? Les gars sont perchés comme d'habitude. Et en fait, non, ils t'expliquent vraiment comment tu peux gagner, je crois, jusqu'à 2 minutes de cuisson si tu diminues bien ton temps de cuisson, si tu mets au bon moment le couvercle. Et franchement, c'est hyper... C'est un peu what the fuck décalé, mais c'est rigolo. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie.
Et puis même en vendant des pâtes, tu peux quand même innover, faire des campagnes originales. Donc, faut qu'on arrête de dire, il n'y a rien à dire. Attends, ils vendent des pâtes et réussissent à faire des trucs comme ça et on se souvient d'eux après quelques années.
Ils arrivent à limiter l'impact carbone, enfin les émissions de carbone d'agroalimentaire et nous, sur les consommateurs. Donc franchement, bon, j'en reparlerai peut-être dans un prochain épisode du coup, mais j'ai trouvé l'initiative plutôt pas mal. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à toutes et à tous. Pour retrouver tout ce qu'on s'est dit, vous allez dans la description de l'épisode et vous aurez toutes les sources. Si vous avez aimé cet épisode, on laisse 5 étoiles, les gars. Merci.
On se dit à la semaine prochaine pour un épisode un petit peu spécial parce qu'on va couvrir un événement. Donc, c'est dans 2 semaines pour la revue de presse habituelle. Et on a encore quelques épisodes avant le break de Noël. À très bientôt tout le monde. Au revoir Laetitia.
Ciao, ciao.
Je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'il n'est pas inutile de le répéter. La résistance au froid, ça peut contribuer à assurer le succès d'une équipe.